Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Quel livre et quelle littérature au Moyen-Orient? Le domaine de l'édition se développe-t-il de la même façon en Égypte ou au Liban? Subit-il le poids d'un développement économique accéléré dans les pays du Golfe? Et les crises politiques actuelles en Irak, en Syrie ou au Yémen ont-elles une influence sur sa production et sur l'orientation de ses champs éditoriaux? Autant de questions que nous poserons à l'anthropologue Franck Mermier, qui a co-dirigé une étude sur le sujet publiée aux éditions Kartala. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Alexandre Bouchanti au Caire et, de retour de vacances, Michel Paul à Jérusalem.
Orient Hebdo sur RFI.
Au moment où la situation de bien des pays du Moyen-Orient est précaire, quand ils ne sont pas en guerre, il peut paraître dérisoire de parler des livres et de la lecture. Pourtant, c'est bien souvent par l'édition que passe l'acquisition de la culture, d'où l'intérêt de regarder de plus près ce qui se passe dans ce domaine, dans cette région du monde. Franck Mermier, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue au CNRS, ancien directeur du Centre français d'études yéménites à Sanaa et du département scientifique des études contemporaines à l'Institut du Proche-Orient à Beyrouth. Vous publiez aux éditions Kartala ce regard sur l'édition dans le monde arabe, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec le romancier libanais Sharif Majdalani. Alors, commençons par un peu d'histoire. Le monde arabe a-t-il connu sa révolution de l'imprimerie?
Alors, effectivement, ce qui est très caractéristique du monde arabe, c'est l'implantation tardive de l'imprimerie dans le monde arabe. Donc, on cite toujours les presses de Khuzhaya au Liban, et puis aussi le rôle important d'un imprimeur d'origine syrienne, Abdallah Zahir, qui était un imprimeur chrétien, qui a dû fuir d'ailleurs l'église orthodoxe en Syrie pour se réfugier au Liban, où il a contribué à fonder des presses dans un monastère à Khuzhaya, mais très tardivement par rapport au reste du monde, et surtout que l'Empire ottoman a autorisé aussi très tardivement l'impression en langue arabe, notamment pour aussi des questions religieuses. Et puis parfois, on dit aussi du fait des protestations des copistes, des manuscrits qui ne voulaient pas être concurrencés par l'imprimerie. Donc cette implantation tardive de l'imprimé est une des caractéristiques qui fait que l'édition dans le monde arabe, finalement, c'est non seulement s'est implanté tardivement, mais aussi selon les pays de façon extrêmement contrastée, surtout au Liban, puis et aussi en Égypte, notamment avec le rôle de l'État en Égypte dès Mohamed Ali. On parle notamment de au milieu du 19e siècle de l'implantation de la fameuse imprimerie Boulak, mais il faut savoir que cette imprimerie, elle avait surtout pour fonction de publier des livres utilitaires pour les ingénieurs, les médecins, etc.
Alors on reviendra sur l'Égypte et notamment la part de l'État, un peu plus tard. Mais vous écrivez que le premier livre imprimé en arabe ne l'a pas été dans l'espace arabe, mais en Italie. Pourquoi ?
Oui, ben effectivement, c'est-à-dire qu'il y a eu un effort aussi de la part des personnes qui s'intéressaient à la religion et notamment de la part des chrétiens pour publier aussi des psaumes en arabe. Donc ça a été fait à l'extérieur du monde arabe. D'ailleurs, le rôle des missionnaires chrétiens, mais aussi des chrétiens, des communautés chrétiennes pour la diffusion de l'imprimerie a été extrêmement important dans le monde arabe. Donc cette première impression en arabe résultait aussi du fait qu'il était impossible de le faire dans l'espace arabe, qui était à l'époque sous contrôle ottoman.
Vous voulez dire que les premières impressions de livres, c'est d'abord dans le religieux et particulièrement le religieux chrétien ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui est assez caractéristique du monde arabe, c'est que les premières impressions de livres en arabe, bien sûr, étaient destinées finalement aux communautés chrétiennes, et notamment du fait qu'on a, notamment à Beyrouth, à l'imprimerie de ce qui deviendra l'université américaine de Beyrouth, puis aussi à l'imprimerie catholique de Beyrouth, on a imprimé aussi la Bible en arabe, avec le rôle notamment de ses traducteurs, Boutros Boustany et d'autres, qui ont joué un grand rôle, d'ailleurs c'était des protestants, qui ont joué un grand rôle dans la diffusion de la Bible en arabe et de sa traduction aussi. Donc il y a une importance du religieux que l'on retrouve finalement aujourd'hui aussi avec la part très importante du livre islamique dans l'édition arabe. De nombreux éditeurs dans le monde arabe, dans l'ensemble du monde arabe, sont spécialisés dans la publication de livres religieux islamiques.
Est-ce que la colonisation, quel que soit d'ailleurs le pays colonisateur, a eu une influence sur le développement de l'édition en arabe ?
On peut dire en tous les cas que les premières presses égyptiennes ont été fournies par le colonisateur, si on peut dire, en tout cas l'armée de Napoléon qui a débarqué à Alexandrie et au Caire, et puis en 1798, donc la première presse, notamment pour publier des journaux en français, mais aussi des déclarations en arabe de Bonaparte. Et puis aussi dans d'autres contextes coloniaux, comme la Tunisie, comme aussi la Palestine, l'Irak, effectivement, les premières presses ont été importées de l'étranger et souvent amenées soit, comme dans le cas de l'Égypte, par véritablement le nouveau régime colonisateur, mais où par des missionnaires chrétiens.
Et alors, à partir des années 50, et donc lorsque le nationalisme entre en piste au Moyen-Orient, est-ce que cela change les choses concernant l'édition des livres ?
Alors, il y a, à partir de ce moment-là, surtout le développement de la scolarisation, l'ouverture, parfois dans certains pays, des premières universités, en tout cas, développement de l'éducation, de masse, finalement, ce qui va entraîner le développement de l'édition, notamment de l'édition du livre scolaire, mais aussi de l'édition d'ouvrages, de pensées, d'histoire, qui revient, effectivement, sur la question du nationalisme, qui commence à traiter des problèmes du monde arabe par des auteurs arabes qui profitent aussi de l'expansion, finalement, du secteur de l'édition dans plusieurs pays, mais surtout en Égypte et au Liban. Hein. C'est d'abord l'Égypte qui tient ce rôle non seulement pionnier, mais aussi leader de l'édition dans le monde arabe. Et en fait, la plupart des écrivains, journalistes, intellectuels qui souhaitent publier et qui ne sont pas égyptiens viennent ou envoient en Égypte leurs manuscrits pour être publiés parce que à l'époque, l'édition égyptienne était florissante.
Comme le Syrien Kawakibi.
Exactement. C'est-à-dire que même d'ailleurs des clercs saoudiens ou du Golfe vont envoyer leurs manuscrits en Égypte, c'est véritable, ou depuis la Syrie, comme vous l'avez signalé. Et puis aussi, il faut le savoir que ce secteur de l'édition en Égypte est encore un secteur de l'édition privée. Et ça va totalement se transformer après la prise de pouvoir de Nasser, qui va progressivement nationaliser finalement le secteur de l'édition. Donc la part de l'édition publique deviendra prédominante en Égypte, ce qui va conduire finalement à la migration de certains éditeurs égyptiens vers le Liban, qui se caractérise par son libéralisme et par aussi le développement de l'édition libanaise qui est complètement privée.
Mais alors, à contrario, est-ce que l'intervention des pouvoirs publics a pu jouer dans le développement de l'édition en arabe ?
Alors, surtout en Égypte, effectivement, avec notamment le rôle de Mohamed Ali et d'autres, et de l'État égyptien. Hein. On parle toujours de cette fameuse imprimerie Boulak au Caire, mais il y aura toujours eu le rôle de l'État qui va être très important. Les Ottomans vont implanter des presses, notamment à Samra, au Yémen, pour imprimer leurs journaux. Mais il y a aussi, ce qui est très intéressant, c'est que le degré de libéralisme de chaque pays est un terreau extrêmement important pour le développement de l'édition. Lorsque la censure ottomane, par exemple, s'exerce au Liban, les intellectuels, ou en Syrie, les intellectuels de Levantin vont aller s'exiler au Caire et vont créer des journaux et publier des ouvrages. Et lorsque la censure, donc c'est notamment au milieu du 19e siècle ou au début du 20e, lorsque la censure s'opère en revanche à partir du régime nasserien fortement en Égypte, alors c'est à ce moment-là qu'on migre vers le Liban si la censure s'exerce en Syrie, qu'on va publier également au Liban.
Et donc, aujourd'hui, la censure s'exerce encore fortement ?
Alors, la censure, c'est même un effet structurant sur l'édition dans le monde arabe. Par exemple, en Syrie, qui aujourd'hui, bien sûr, souffre d'un conflit extrêmement violent, il était habituel pour certains éditeurs syriens d'ouvrir des branches au Liban pour pouvoir publier des ouvrages qui échapperaient ainsi à la censure syrienne. De la même façon, dans de nombreux pays, notamment dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, où s'exerce une censure extrêmement forte, ou dans d'autres pays, on va aussi, les auteurs vont alors se tourner vers le Liban ou vers d'autres pays, comme la Jordanie, par exemple, ou Bahreïn, pour publier des ouvrages. Mais on aura aussi des éditeurs saoudiens qui vont s'installer, soit dans le Golfe, mais plutôt au au Liban également pour publier des ouvrages critiques, notamment, ou d'histoire ou de sociologie sur la société les sociétés des pays du Golfe.
Ah, justement, collit-on précisément aujourd'hui au Moyen-Orient et d'un pays à l'autre, j'imagine que les champs ne sont pas les mêmes.
Alors, effectivement, on a coutume de dire que l'édition arabe est très utilitaire, c'est-à-dire on publie beaucoup d'ouvrages qui servent aux para-universitaires, aux universitaires, notamment pour les ouvrages de cours. Il y a bien sûr l'édition scolaire, mais aussi toute cette édition qui est liée à l'université, du fait de la massification de l'enseignement et puis de l'arabisation aussi, notamment dans les pays du Maghreb, qui finalement a produit un lectorat nouveau par rapport aux ouvrages arabes. Mais le phénomène récent, et je crois sur lequel il faut insister, c'est aujourd'hui la part du roman. La part du roman dans l'édition arabe qui a extrêmement augmenté ces dernières années, je pense depuis, on pourrait dire depuis les années 2000 en fait. C'est un phénomène très récent. Il y a bien sûr qui est accompagné par le phénomène des prix littéraires, hein, notamment dans le pays du Golfe. Mais la part du roman est devenue un phénomène éditorial très important, avec des records aussi de ventes pour certains ouvrages du fait de la publicité qui est accordée aux ouvrages qui sont publiés et qui obtiennent des prix. Mais par exemple, on pourrait citer le cas de l'Arabie Saoudite, qui connaît aussi un grand nombre d'auteurs femmes, d'écrivaines, qui publient aussi des romans. Donc c'est un mode d'expression qui s'est véritablement développé dans le monde arabe.
On parle bien de romans qui sont écrits par des autochtones, en l'occurrence, hein, hommes ou femmes.
Bien sûr, hommes ou femmes, c'est-à-dire des romans qui souvent d'ailleurs traitent soit de la question de subjectivité, c'est-à-dire donc qui reflètent un peu le moins intime finalement de ces auteurs, ou qui traitent de questions sociétales très importantes et qui souvent produit ce paradoxe que souvent les romanciers arabes, beaucoup de romanciers arabes finalement, se conduisent presque comme des sociologues de leur société, souvent dans des pays où, par exemple comme en Syrie qui connaît depuis plus de 40 ans une dictature féroce, dans des pays où finalement la production sociale est pratiquement interdite, l'enquête est interdite, donc c'est très difficile de produire ce genre de données, de connaissances, et donc finalement ces romanciers mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, notamment pour l'Arabie Saoudite, pour le Koweït, pour l'Égypte aussi, servent finalement d'éclaireurs finalement sur ces questions sociétales, et puis lèvent des tabous, bien entendu. Lèvent des tabous et traitent de questions qui sont souvent occultées ou ignorées.
Merci Franck Mermier, anthropologue au CNRS. Je renvoie à votre ouvrage « Regard sur l'édition dans le monde arabe » publié chez Cartala.
Orient Hebdo sur RFI. Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre, bonjour Michel. Michel Paul, l'attentat de mercredi soir à Tel Aviv qui a fait 4 morts fait la une de la presse israélienne.
Oui, et c'est un sujet qui, bien entendu, fait non seulement la une de tous les journaux, mais aussi l'essentiel des articles éditoriaux et autres commentaires de la presse de cette fin de semaine en Israël. Israel Hayom, le journal proche du Premier ministre israélien, cite Benjamin Netanyahou en manchette. « Nous ne céderons pas, on ne nous vaincra pas », stipule le titre. Et partout aussi la photo de M. Netanyahou venu boire un café à Max Brenner, c'est le nom de l'établissement où la fusillade a débuté. Pour un chroniqueur, la baisse du nombre d'attentats récemment a aveuglé les Israéliens qui comprennent maintenant qu'ils ne se trouvent pas sur l'Everest, mais bien plutôt en plein dans le cratère d'un volcan. Un commentateur reste bouche bée devant la rapidité avec laquelle le public se remet du coup qui lui a été asséné. Les cafés et restaurants de Sarona Market sont à nouveau pleins. Dans les journaux aussi, des biographies des 4 victimes de la fusillade et aussi le portrait des 2 auteurs de l'attaque qui fait remarquable et surtout rare depuis le début de l'intifada, des individus ont été capturés vivants.
Michel, beaucoup de commentaires sur l'attitude du tout nouveau ministre israélien de la Défense.
Première épreuve de force pour Avigdor Lieberman, on le voit caricaturé comme un gardien à l'entrée d'un café. Un commentateur de Yedioth Aharonot le souligne, le cabinet de sécurité sous la direction de Netanyahou et de Lieberman n'a pas présenté de nouvelles idées. Pour un éditorialiste de Mariv, on voit là très nettement les limites de la force. Autre article d'opinion dans le même journal, tant que le gouvernement ne fera pas d'ouverture dans le processus de paix apte à changer l'atmosphère, eh bien les forces de sécurité ne pourront que continuer à faire face à la vague de violence. Et puis il faut citer le titre de l'édito de Haaretz, « Seulement une solution politique ». Le journal parle aussi de ce qu'il qualifie de « syndrome Netanyahou ». Mais pour un autre commentateur, l'idée que la relance du processus de paix pourrait permettre l'instauration d'une période de calme n'est qu'une illusion.
Alexandre, plusieurs de vos journaux commentent la décision des Nations Unies concernant la guerre au Yémen et la coalition conduite par l'Arabie Saoudite.
L'ONU avait publié un rapport sur les exactions commises contre les enfants de par le monde. En annexe, il y avait une liste qui incluait la coalition conduite par l'Arabie Saoudite contre la rébellion Houthi au Yémen. Suite aux protestations saoudiennes, l'ONU avait fait marche arrière et retiré la coalition de la liste noire. L'occasion de nouvelles protestations, cette fois de la part d'organisations internationales de défense des droits de l'homme. Selon la presse arabe, l'ONU a cherché à se justifier en accusant l'Arabie d'avoir menacé de bloquer tous ses financements au programme de l'organisation. Une menace que Riyad dément dans un communiqué repris par de nombreux journaux. Seuls les médias sociaux arabes osent critiquer la décision de l'ONU et les pressions saoudiennes.
Par ailleurs, Alexandre, la presse panarabe affirme que plus d'un demi-million de Syriens seraient menacés par la famine.
Une presse qui détaille ville par ville, village par village, le nombre d'habitants menacés par la famine. Elle précise qu'il s'agit de localités cernées par les forces du régime de Bachar el-Assad, des localités qui ne seraient pas concernées par l'accord d'aide humanitaire conclu avec l'ONU. Il est intéressant de noter que les journaux arabes ne mentionnent pas les localités cernées ou isolées par la rébellion, principalement l'État islamique et Jabhat al-Nusra.
Michel, il est question également de la conférence de Paris qui a eu lieu le 3 juin dernier.
Marive consacre une page entière à cette initiative menée par la France. Quand 28 ministres des Affaires étrangères se réunissent à Paris, ce n'est pas pour promouvoir des propositions qui ont été maintes fois ressassées pour une solution du conflit israélo-palestinien. Non, écrit l'auteur de l'article, le but de cette conférence était tout simplement de faire voler en éclats la politique du Premier ministre israélien Netanyahou.
La triche généralisée aux examens du bac en cours en Égypte fait les choux gras de la presse arabe, Alexandre.
Après l'Algérie et le Maroc, c'est au tour de l'Égypte d'être victime de la triche généralisée. Un site internet baptisé Xiaoming est sur les pages de tous les journaux. Xiaoming a publié les questionnaires de deux matières au moins avant les examens, provoquant des annulations ou des désordres. Pour le reste des matières, questions et réponses sont publiées une demi-heure après le début de chaque épreuve. Plusieurs éditorialistes demandent le limogeage du ministre de l'Enseignement. Le gouvernement a répondu par la création d'une commission interministérielle chargée de lutter contre la triche. Elle comprend des représentants de l'enseignement, de la justice, de l'intérieur et même de la défense. La police a annoncé à plusieurs reprises l'arrestation des administrateurs du site Xiaoming et sa fermeture. Mais Xiaoming semble renaître chaque fois de ses cendres.
Michel, le quotidien Haaretz continue à suivre pas à pas les enquêtes qui sont menées contre M. Netanyahou.
Selon le journal, le procureur général israélien continue d'examiner de manière intensive plusieurs affaires dans lesquelles est impliqué donc le Premier ministre israélien. Alors selon le journal, il y a trois dossiers qui sont particulièrement retenus. L'affaire intitulée « Bibi Tours » sur les voyages de Netanyahou, qui jouissait selon les présomptions de financement double, les scandales autour des résidences du chef du gouvernement, et en troisième place, l'affaire des transferts de fonds en provenance du milliardaire français Arnaud Mimran, lui-même entendu dans une gigantesque affaire d'escroquerie.
Et votre photo du jour, Michel Paul ?
C'est la photo du Carlo, reprise par plusieurs journaux. Eric, le Carlo est une copie artisanale du fusil d'assaut Carl Gustav, qui est manufacturé dans de petits ateliers, notamment en Cisjordanie, selon la presse. Et c'est l'arme qui a servi aux assaillants de Sarona Market mercredi soir.
Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette nouvelle édition d'Orient Hebdo que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine à l'écoute de RFI. À samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal. Mémoire.